Bonjour et bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter. Merci de nous être fidèles tous les week-ends. Au sommaire, jusqu'à 13h, dans un instant, le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein. Et puis le débat du samedi, des applis et des hommes. Des scènes qui font désormais partie du décor des grandes villes, devant des pizzerias, des restos de burgers ou de sushis. Vous voyez des jeunes sur leur vélo ou leur scooter, ils ont les yeux fixés sur leur téléphone. Ils attendent qu'une commande s'affiche sur leurs écrans avant de foncer la récupérer pour la livrer. Et de recommencer. Nous sommes toujours plus nombreux à pouvoir commander ce que nous voulons, quand nous le voulons. Il suffit de cliquer sur nos téléphones et bien sûr d'en avoir les moyens. Uber, Deliveroo, Amazon Prime, Lime. La liste des applications mobiles est quasiment infinie et elle tient dans la poche arrière d'un jean. Bienvenue dans le capitalisme de plateformes. Comprenez ces plateformes numériques dont les travailleurs sont à leur compte. Qu'en retenir? Que reste-t-il des promesses de ce nouveau capitalisme? De nouvelles opportunités ou bien au contraire de nouvelles formes de suggestions qui mettent à l'épreuve notre modèle social. Un livre s'intéresse aux nouveaux travailleurs des applis et c'est passionnant qui est publié aux presses universitaires de France. Livre collectif co-dirigé par l'une de nos grandes spécialistes des politiques sociales, la sociologue Dominique Méda. Elle sera notre invitée dans une quinzaine de minutes.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
La directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver comme chaque samedi et on va commencer par un anniversaire. C'était il y a un an, tout juste un an.
Vous vous rendez compte que dans le budget essence, c'est ce qu'on va pas manger. On se prive des fois de s'offrir le luxe de s'acheter un rôti. Un rôti de bœuf, moi ça me donne l'eau à la bouche. C'est ou le rôti de bœuf ou l'essence. Je fais quoi?
Ils ont pas capté. On peut pas continuer comme ça à soutenir les lobbies, à soutenir le monde de la finance. Il va falloir créer un autre monde. On est là pour ça, quoi. J'ai vu un Américain, il a dit « Moi, je suis là parce que j'espère que ça va... Si vous, vous réussissez en France, les autres peuples vont se soulever. »
Demain, cela fera un an jour pour jour que le mouvement des Gilets jaunes lançait des mois de blocage et de manifestations. Des rendez-vous évidemment que vous avez en tête tous les samedis, le gouvernement contraint d'engager des mesures pour le pouvoir d'achat. Avec un peu de recul, Gilles, que retenez-vous de ce mouvement ?
Un immense succès et un immense échec. Un immense succès symbolique. Les Gilets jaunes ont gagné la bataille de l'attention médiatique avec une mobilisation qui était sans doute 10 fois inférieure à celle de 1995. Elle a eu une visibilité qui était 2 fois supérieure. Succès social avec des gains de pouvoir d'achat qui font que l'année 2019 va être la meilleure année en termes de pouvoir d'achat pour les Français depuis plus de 10 ans. Succès paradoxal du point de vue économique puisque notamment pas seulement, mais notamment grâce à ces mesures, la croissance française tient de manière relative mieux le coup que les autres pays de la zone euro et notamment que l'Allemagne. Donc succès et puis immense échec pour les Gilets jaunes eux-mêmes qui n'ont pas eu la capacité de se donner une représentation et de trouver un débouché politique. Et puis immense échec collectif parce que la violence est apparue comme un moyen légitime pour faire valoir ses revendications, ce qui est un problème dans une démocratie.
Natacha ?
Moi, ce que je retiendrai d'abord, c'est que ce mouvement qui très rapidement a été manipulé, noyauté, a fait émerger une forme de violence en son sein, a connu 80% de soutien ou de sympathie de la part de la population au début, est resté pendant très très longtemps dans les sondages à plus de 50% de soutien. Et encore aujourd'hui, vous avez 55% de Français qui ont soit de la sympathie, soit qui soutiennent ce mouvement. Ça nous raconte quoi? C'est absolument majeur, étant donné l'image qu'a ce mouvement. Ça nous raconte qu'il y a eu à cette occasion l'émergence, alors d'abord une prise de conscience de la part de citoyens français qui ont compris qu'ils devaient se rendre visibles et qu'ils devaient réclamer ce qui leur est dû, c'est-à-dire une position de citoyen au sens plein de ce terme. C'est-à-dire cette idée qu'un citoyen, c'est quelqu'un qui est souverain, qui décide de son destin. Ce sont des termes qui ont été employés par des gens qui n'étaient absolument pas politisés. Et spontanément, c'est cela qui est ressorti. Et donc, ces gens ont voulu reprendre le pouvoir qui est le leur. Or, il y a eu une entreprise majeure de nettoyage de ce point essentiel, c'est que ce mouvement faisait émerger un bloc potentiellement majoritaire. Et c'est ça qui, petit à petit, a été effacé, remis en cause. Effacé, mais ne serait-ce que par la façon de présenter ce mouvement. C'est-à-dire venir expliquer systématiquement qu'il était ultra-minoritaire, qu'après tout, au plus fort, c'était officiellement 385 000 personnes, que finalement, ça représente une part infime et que c'est moins que tel ou tel mouvement, que telle ou telle grève, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un discours qui s'est mis en marche, toute une imagerie. De même, ce qui m'a frappé...
Ce que vient de dire Gilles en comparant avec 95.
Ce qui m'a frappé très largement, c'est l'absence des intellectuels dès le début de ce mouvement. C'est-à-dire quand ce mouvement était absolument effarant au sens propre du terme, c'est-à-dire que personne n'avait vu cela, il a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour que des intellectuels soient dans autre chose que le rejet. Il y en a eu certains qui, immédiatement, ont marqué leur réprobation, estimant que c'était un mouvement quasi insurrectionnel et fasciste. Et, en revanche...
Certains les ont soutenus. Longtemps... Si on pense à Christophe Guilluy, qu'on avait reçu dans cette même émission, par exemple.
Il est un des rares. Il est un des rares.
Edoui Plenel, je ne sais pas si vous considérez comme intellectuel, mais il les a soutenus.
Justement, j'y venais. C'est-à-dire qu'il a fallu beaucoup de temps pour que des intellectuels de la gauche, ou plutôt d'une certaine gauche, viennent. C'est-à-dire quand vraiment il a été apparent que le mouvement avait été récupéré par des franges gauchistes de la population. Et là, en effet, on a vu Edoui Plenel, etc. Au début, ils se bouchaient le nez. Au début, ils n'étaient pas là. Donc, il y a eu une fracture entre les intellectuels et un mouvement social au sens le plus pur du terme, un mouvement du peuple. Et ça, je pense que c'est inquiétant.
Gilles Finkelstein.
Oui, moi, j'ai jamais voulu avoir une vision béate de ce mouvement. Je crois que le rôle des intellectuels a été d'essayer, et est encore d'essayer de comprendre ce mouvement, d'en voir à la fois les ressorts qui pouvaient être légitimes, la visibilité sociale d'une France qui se sentait reléguée, oubliée, d'en voir aussi les dérives, d'analyser ce qu'était la réalité de la mobilisation. Mouvement ultra-minoritaire, oui, mouvement ultra-minoritaire quand on regardait dans la rue. Et donc ça, il faut le dire, ça n'empêche pas que ce que dit par ailleurs Natacha est juste, c'est-à-dire qu'il y a eu, et de manière continue, un soutien, ou en tout cas une sympathie d'une partie importante de l'opinion. Est-ce qu'il y a eu une entreprise...
C'est pas la même chose. Voire l'identification, combien de Français
mais c'est la raison
se sont
pour laquelle
dit gilets jaunes.
Mais c'est la raison pour laquelle j'utilise toute cette gradation, parce qu'il y a eu une gradation dans le rapport au mouvement des gilets jaunes. Alors, entreprise de nettoyage... Il y a eu beaucoup une entreprise d'auto-nettoyage de la part des gilets jaunes eux-mêmes qui ont été dans l'incapacité et même qui à aucun moment n'ont pensé comme légitime le fait même de se doter d'une représentation. Et ça, ils l'ont fait eux-mêmes. Personne
Bien
ne
sûr.
Les a aidés
Ah non, mais
à faire ça.
Sauf que justement, ça raconte... Si vous vous souvenez, moi, ce qui me frappait, c'est qu'il y avait beaucoup de gilets jaunes invités sur des plateaux à qui des journalistes disaient « Mais enfin, qu'est-ce que vous proposez ?» Sur un ton d'ailleurs assez comminatoire. Et qui répondaient « Mais nous ne sommes pas là pour proposer. Nous sommes des citoyens, nous faisons entendre notre voix, nous essayons de faire entendre les problèmes que nous rencontrons, et c'est aux politiques... de penser cela, de proposer des choses. Et il y avait ce paradoxe, c'est-à-dire que, en fait, tout le problème de cette demande de proposition, c'est qu'elle oublie que ce mouvement n'est que l'expression d'une crise qui est une crise systémique.
Vous en parlez au présent, pas au passé.
Oui, j'en parle au présent parce que je pense que rien n'est réglé, puisque justement cette crise systémique, on la voit réapparaître dans d'autres pays, on voit que tout cela est en train de se modifier, mais toujours sur les mêmes bases, c'est-à-dire qu'on a le résultat de 40 ans de politique néolibérale, de dérégulation. C'est cela qui se lit dans ce mouvement, et ça ne se règle pas par des propositions qui relèvent de modifications du curseur, alors un petit peu plus de charges, un petit peu moins d'investissement ou un peu plus, etc. Il faut repenser un système qui arrive à bout de souffle.
Encore un mot, Gilles.
Oui, encore un mot. Quand on fait le bilan un an après, je crois que le mouvement des Gilets jaunes marque aussi une césure dans le quinquennat. Il y aura un avant et un après. Il y a eu un certain nombre d'infléchissements, que je crois positifs. On a eu une parole présidentielle sans doute mieux maîtrisée après qu'avant. On a eu des tentatives d'innovation démocratique. On en a une en cours aujourd'hui même avec la Convention citoyenne pour le climat. Et puis, on a eu aussi des évolutions, et des évolutions importantes qui, pour le coup, me paraissent plus inquiétantes. L'équilibre politique initial a été à l'évidence rompu avec une droitisation accélérée du quinquennat. Et l'ardeur réformatrice d'Emmanuel Macron, et on peut le comprendre, a été fortement émoussée, à tel point que je crois que la question qui lui est posée aujourd'hui est de savoir quel est l'objet, non pas d'un éventuel deuxième mandat, mais de la deuxième moitié de son mandat. Il est là. Pourquoi faire ? Je crois que cette question-là, elle se pose davantage aujourd'hui qu'elle ne se posait avant le mouvement des Gilets jaunes.
Et à lui d'y répondre.
France Inter, le grand face-à-face. Le duel.
Vérité au-dessous des Pyrénées, erreur au-delà. Cap sur l'Espagne maintenant et ce pacte surprise, la coalition impossible entre le Premier ministre sortant Pedro Sanchez et Pablo Iglesias, le secrétaire général de Podemos mardi dernier. Tout s'est fait de manière si improvisée et secrète qu'au début, il n'y avait aucun stylo pour signer l'accord, raconte le quotidien El País que cite Courrier International. Les leaders de la gauche ont surmonté en quelques heures les obstacles qui avaient rendu impossible un gouvernement de coalition il y a 4 mois à peine. Est-ce que vous êtes surpris par cet accord et que dit-il pour vous, Gilles ?
Surpris, non, au sens où la même question a été posée avant. L'accord aurait pu être fait dans une situation offensive dans laquelle les socialistes étaient dans une dynamique. Là, elle se fait de manière défensive parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Ces élections se sont déroulées dans un contexte qui a pesé très lourd, un contexte de fatigue électorale avec la 4e élection en 4 ans et des citoyens espagnols qui ne comprenaient pas que leurs dirigeants ne réussissent pas à trouver un compromis et un contexte d'incandescence catalane avec une crise qui avait basculé dans la violence. Tout cela explique pour partie le succès de l'extrême droite et de son parti Vox.
Troisième parti aujourd'hui en Espagne.
Mais ça ne doit pas faire oublier que ces élections se traduisent, et je dirais se traduisent une nouvelle fois, et peut-être de manière surprenante pour des Français, mais par un succès socialiste de la gauche social-démocrate en Europe.
Mais qui s'allie avec la gauche de la gauche. On va en parler justement parce que j'adore la politique comparée. Et vous nous direz si ce serait applicable en France, Natacha.
Alors, premier point, moi je ne parlerai pas d'un succès de la gauche en Espagne. Disons que on peut dire qu'ils réussissent finalement à s'en sortir. Mais ce qui ressort de ces élections, c'est d'abord l'aberration de l'ensemble de ces systèmes politiques, parce que l'Espagne n'est pas seule dans ce cas, qui illustre un morcellement total des opinions et donc une difficulté majeure à gouverner. C'est-à-dire que les coalitions sont de plus en plus difficiles à se faire. Vous avez des partis qui restent totalement sur leur rail et qui refusent les compromis qui étaient l'essence même de ce système. Premier point. Deuxième point, effondrement de Ciudadanos, c'est-à-dire du Macron espagnol, qui ressemble, du point de vue du dépassement, du clivage gauche-droite, du discours libéral qui ressemble à Emmanuel Macron, mais qui a cette caractéristique très espagnole, qu'il s'est radicalisé dans une forme de nationalisme. Et qu'il s'est retrouvé, d'ailleurs Manuel Valls en tête, à manifester avec Vox contre les mouvements indépendantistes pour essayer d'expliquer qu'il fallait absolument maintenir une unité plus grande de l'Espagne, c'est-à-dire revenir sur le compromis issu de la fin de la dictature vis-à-vis des autonomies. Et d'ailleurs, le fait que Vox ait aujourd'hui plus de 50 députés va lui permettre de remettre en cause tous ses statuts d'autonomie devant la Cour suprême. Il y a donc là quelque chose de très important. Et je pense que derrière, ce nationalisme est en train de fracturer l'Espagne d'une façon qui fait que là, ce n'est qu'un épisode. Ça risque de devenir beaucoup plus dangereux par la suite.
Gilles, arrivons à cet exercice de politique comparée. Le cas espagnol pourrait s'appliquer en France. C'est une déclaration d'intention, mais est-ce que ça prouve que les deux gauches ne sont pas irréconciliables, contrairement à ce que disait un célèbre homme politique espagnol ?
qui n'a pas toujours été espagnol et qui n'est pas seulement espagnol. Il faut noter que le Podemos d'aujourd'hui n'est pas exactement le Podemos d'hier. Podemos s'est construit sur un modèle qui est assez proche de la France insoumise, c'est-à-dire un modèle dans lequel était récusé le clivage gauche-droite comme clivage central et était proposé un nouveau clivage entre le peuple et l'oligarchie. Donc de ce point de vue-là, il y a une analogie entre Jean-Luc Mélenchon et Pablo Iglesias, mais ce mouvement, petit à petit, est revenu dans une logique qui était plus une logique gauche-droite, au point d'avoir une scission en son propre sein de ceux qui étaient les plus radicaux. Je reviens sur ce que disait Natacha, sur les leçons politiques. Pour les socialistes, pour la gauche social-démocrate, c'est un succès. Ils arrivent en tête, ils vont diriger le gouvernement, et quand on regarde au niveau européen, en dehors du cœur franco-allemand et de son flanc est, que ce soit au nord ou que ce soit au sud, la gauche social-démocrate, paradoxalement, ne se porte pas si mal. Je conviens que c'est un succès au goût amer, parce qu'ils ont dû réaliser dans les pires conditions une alliance improvisée avec un parti avec lequel ils avaient du mal à dialoguer auparavant. Et puis, il y a les leçons institutionnelles. Vous avez raison de souligner le morcellement absolument incroyable du champ politique espagnol, ce faisant qui rejoint le morcellement de beaucoup d'autres pays.
C'est ce que je disais,
je crois que la question qui est posée et qui nous est posée à nous, aussi derrière, c'est la réflexion sur le mode de scrutin. Puisque oui, dans tous nos autres partenaires européens, c'est un mode de scrutin proportionnel qui contribue à ce morcellement et qui fait que les partis les plus petits détiennent la clé du pouvoir. Et donc quand on va réfléchir à nouveau chez nous à l'occasion de la prochaine élection présidentielle à nos institutions et au mode de scrutin, je crois qu'il faut qu'on garde ça aussi en tête. Comment garder de la gouvernabilité à nos démocraties ?
Bien sûr.
Un mot, Natacha.
Je suis entièrement d'accord avec ça et c'est pour ça que je soulignais cette question du morcellement et du caractère ingouvernable. Nous sommes confrontés, j'allais dire, au problème inverse. Nous avons 350 députés pour un parti qui a fait 14,5% des inscrits au premier tour. C'est-à-dire que les démocraties sont confrontées à la question de savoir comment on fait émerger ce qui serait légitime et ce qui émanerait de la volonté populaire.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Aux élections européennes, certains me disent « c'est anecdotique, vous vous rendez compte ? Il n'y a eu que 29 000 voix. On attend quoi ? Qu'il y en ait 290 000 ? Qu'il y en ait 2 millions 9 ? Et des candidats qui voudront quoi ? Imposer notamment des créneaux réservés dans les piscines, dans les cantines, des menus, des repas qui sont servis. Je pense qu'il faudra, le moment venu, toucher à la Constitution. Parce qu'en 1958, la laïcité, ça n'avait pas la même importance qu'aujourd'hui. »
C'était Xavier Bertrand mardi dernier. 4 mois avant les élections municipales, le président de la région Hauts-de-France et le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, ont demandé au ministère de l'Intérieur d'interdire les listes communautaires. Alors, est-ce que c'est possible ? Le gouvernement répond pour le moment que non, que la Constitution permet à toutes les idées de se présenter devant les électeurs français, raison pour laquelle Xavier Bertrand disait qu'une loi était indispensable et qu'il faudrait, le moment venu, toucher à la Constitution. Qu'est-ce que ça vous inspire, Natacha ?
Premier point, il y a des endroits en France où on voit émerger, en effet, ce genre de liste. Par exemple, le Val-d'Oise est un département particulièrement touché. Deuxième point, c'est très difficile de définir ce qu'on pourrait appeler une liste communautaire, parce qu'évidemment, la plupart ne se présentent pas comme étant communautaristes ou comme défendant une religion. La plupart ne proposent pas d'instaurer la charia dans une ville. C'est pas du tout comme ça que ça se joue. Ce sont très souvent, mis à part le parti des démocrates musulmans, mais qui est totalement anecdotique, en fait, le problème vient surtout de personnalités qui chasse des voix sur le thème « entre frères, il faut s'entraider, votez pour moi ». Vous voyez, ce qui, évidemment, est impossible à enrayer par une loi, d'autant que ça s'assied en fait sur le clientélisme d'élus locaux qui ne sont absolument pas communautaires, qui sont dans des partis tout à fait classiques, mais qui ont voulu jouer à ça, c'est-à-dire que depuis des années...
Mais pourquoi est-ce qu'on parle de liste communautaire et pas de liste musulmane, islamique, je ne sais pas quel mot employer, mais en l'occurrence...
Justement, parce que je vous disais que ça se joue sur l'appartenance à une communauté. On est frères, on a des intérêts proches. C'est pas, en général, ils mettent pas en avant des revendications religieuses. Et c'est pour ça que juridiquement,
non, mais
c'est
pas fait
pour l'instant
empêcher
absolument
les listes
impossible
basques, par exemple,
à interdire.
Dans le Pays basque.
Non, mais évidemment, mais je vous dis, c'est pour ça que c'est absolument impossible à interdire et qu'en revanche, la question du clientélisme pratiqué par les élus locaux pourrait là être travaillée un petit peu plus.
Gilles.
Bon, moi je suis attaché au modèle républicain, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas des communautés ethniques ou religieuses qui vivent de manière juxtaposée, mais qui s'adressent à des citoyens égaux en droit et en devoir et qui, ensemble, constituent la nation. Et pourtant, je suis extrêmement réservé sur cette idée d'interdiction des listes communautaires. D'abord, pour une raison purement politique ou purement tactique, je crois que pour l'instant, on agite un épouvantail à moineaux. Quand on regarde le poids...
L'expression est jolie, qu'est-ce que ça veut dire?
Quand on regarde le poids de la liste de l'Union des démocrates musulmans de France aux élections européennes, puisqu'il y a eu une liste, au niveau national, c'est 0,13%. Alors on peut dire, dans ce cas-là, il faut regarder plus près, là où il y a davantage de musulmans. Regardons en Seine-Saint-Denis, 0,78. On dit alors, dans ce cas-là, regardons non pas dans un département, mais regardons dans des communes. Il n'y a pas une commune où ça va au-delà de 5%. Alors on finit par dire, regardons dans un bureau. Bon, franchement, aujourd'hui, ce n'est pas une menace.
C'est pour ça que je parlais de personnalité.
Deuxième raison.
C'est pas le parti.
Deuxième raison, pour une raison juridique, Natacha l'a dit, c'est à la fois impossible à définir et impossible à appliquer. Que l'on interdise des listes qui défendent le terrorisme. Évidemment. Que on interdise des listes qui défendent l'absolutisme, c'est-à-dire qui disent que la loi religieuse est supérieure à la loi républicaine. Peut-être. Mais le communautarisme, c'est-à-dire l'idée d'un mode d'organisation qui est différent de celui auquel la République est habituée, franchement, je ne vois ni comment on le définit, et quand je lis la définition qu'en a donnée Bruno Retailleau, franchement, c'est inapplicable, ni encore moins quand on regarde comment ça s'applique. J'ajoute un dernier point. Je pense que par ailleurs, ce n'est pas légitime. Ce n'est pas légitime au sens où la République doit accepter de vivre avec des citoyens qui défendent un autre modèle. Elle a vécu avec des monarchistes, par définition, qui sont les plus contre la République, avec des députés monarchistes. Elle vit aujourd'hui avec des députés et des élus Front National qui n'ont pas la même conception de la démocratie libérale que moi et que beaucoup de Français. Et donc le combat ne doit pas être, je crois, un combat juridique, a fortiori pas un combat constitutionnel, mais c'est un combat politique. Et la question de la lutte contre l'islamisme sur le terrain et de la lutte contre les discriminations me paraît beaucoup plus utile pour lutter contre le communautarisme qu'une révision de la Constitution.
Natacha, avant de passer au débat.
Entièrement d'accord, lutte contre les discriminations, travail social qui permettra les tentations communautaristes, mais aussi travail au sein des partis politiques pour éviter à la fois les complaisances et le clientélisme. Une ville comme Saint-Denis a certains élus qui ont des habitudes franchement communautaristes. Il n'y a pas besoin d'être sur des listes communautaires pour ça.
À suivre dans le grand face-à-face, le débat avec la sociologue Dominique Méda.
France Inter, le grand face-à-face, le débat.
Cliquez sur l'écran de son smartphone, le pouce sur une application pour commander un chauffeur ou une pizza. Des gestes que nous faisons maintenant sans même y penser. C'est si simple et c'est même l'une des grandes promesses des plateformes numériques. Et si ce capitalisme de plateforme inventait aussi de nouvelles formes d'organisation du travail? Le recours quasi systématique à des travailleurs indépendants, très rarement salariés, le plus souvent très peu et mal protégés. Ou bien faut-il voir dans ce phénomène de nouvelles opportunités pour des personnes qui autrement resteraient prisonnières du chômage? On en débat avec l'une de nos grandes spécialistes des politiques sociales, engagée à gauche. Elle co-dirige avec la sociologue Sarah Abdelnour les nouveaux travailleurs des applis aux presses universitaires de France. Bonjour Dominique Méda.
Bonjour Ali Badou.
Et bienvenue, professeur de sociologie à Paris Dauphine. Vous êtes la directrice de l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales. Est-ce qu'il faut vraiment voir dans ces gestes anodins que nous faisons quotidiennement avec nos smartphones un danger, une réelle menace pour notre modèle social?
Oui, je dirais oui. Pourquoi? Parce que pour l'instant, ça représente peu de personnes. Hein. Alors, on n'a pas beaucoup de chiffres sur le nombre de travailleurs des plateformes. Ça dépend de ce qu'on appelle un travailleur de plateforme. Est-ce que quelqu'un qui est sur la plateforme Etsy et qui présente qui fait des produits faits main et qui les présente sur son site, est-ce que c'est un ou une plutôt travailleuse des plateformes? Donc, selon la définition qu'on donne, ça peut aller de 200 000 personnes et encore à des millions de personnes.
On estime par exemple qu'il y aurait autour de 45 000 chauffeurs VTC qui travaillent à leur compte ou pour Uber, chauffeurs privés ou d'autres.
Voilà, entre 45 000 et 100 000. Alors pourquoi est-ce que c'est grave? Moi je pense, enfin nous pensons, puisqu'on est un collectif de chercheurs qui avons fait beaucoup d'enquêtes sur ces plateformes, qu'il y a un grand risque de détricotage du salariat et des institutions et des règles qui normalement, jusqu'à maintenant, encadraient le travail. C'est-à-dire que en gros, vous l'avez dit, hein, on a sur ces plateformes des auto-entrepreneurs qui la plupart du temps devraient être considérés comme des salariés, et que ces grandes entreprises, Deliveroo, Uber, etc., utilisent en les manageant par algorithme. Et donc, toutes les promesses qui avaient été faites de liberté, de prospérité, de liens, nous semble-t-il, sont réduites à néant, notamment parce que ces travailleurs n'ont pas d'autonomie, n'ont pas de prospérité et sont complètement manipulés.
Avant d'ouvrir le débat avec Gilles et Natacha, encore une question. D'après vous, ce nouveau capitalisme en est déjà arrivé au temps de la désillusion ?
Oui, c'est-à-dire que un certain nombre de chauffeurs Uber, par exemple, se rendent très bien compte qu'ils sont dans les mains de cette grande société qui s'est amusée à un moment à baisser le prix de la course, à un autre moment à augmenter le prix de la commission. Et alors qu'ils avaient choisi ce régime ou de venir travailler pour Uber pour la liberté que ça leur donnait, hein, et c'est souvent un argument employé par Uber ou par ses plateformes, ils sont libres, ils ont envie d'être libres, ils ont envie de flexibilité, ils aiment pas le salariat, etc. Finalement, ces personnes, chauffeurs, livreurs, etc., se retrouvent dans des situations de travail et de revenus extrêmement faibles.
Natacha Polony.
En fait, il me semble que le cœur de votre propos, c'est la question de l'autonomie que vous venez de proposer. C'est-à-dire cette idée que, en fait, il y a une promesse qui est de récupérer ce que le salariat a peu à peu détruit, c'est-à-dire la capacité pour celui qui travaille de maîtriser d'abord le sens de son travail et ensuite la façon dont il l'organise. Oui. Et c'est vrai que c'était tout le défaut du salariat et d'autant plus avec l'espèce de nouveau management, l'hyper-administration que cela implique.
Absolument. Vous avez parfaitement raison de dire qu'il y a un effet de vase communicant en fait. C'est-à-dire que oui, un certain nombre de personnes, et pas seulement ces personnes, beaucoup de jeunes, beaucoup de gens n'ont plus envie du salariat parce que les conditions de travail dans le salariat se sont considérablement dégradées. Qu'il s'agisse du salariat, des fonctionnaires, du travail dans le service public, etc. Là aussi, où le numérique joue un rôle très important. Vous savez, vous connaissez ce logiciel, par exemple, utilisé par La Poste, pour les facteurs, Géoroute. Bref, on a l'impression qu'on a, dans un certain nombre d'organisations, sauté un cran, une étape supplémentaire, dans la managérialisation, la retaylorisation du travail.
La retaylorisation.
Ouais,
c'est-à-dire
morcellement des tâches.
On est revenu non seulement au travail à la chaîne, mais c'est une des options qu'on défend dans le livre, au tâcheronnat du 19e siècle. Le tâcheron, vous vous souvenez, c'était celui qui prenait le travail au marchand et qu'il distribuait à des ouvriers qu'il payait à la pièce. Et évidemment, il essayait de serrer à mort les rémunérations. Et c'est pour ça que le tâcheronnat a été interdit. Parce que il y avait une cascade de sous-traitance comme ça, ce qui fait qu'à la fin, les gens étaient complètement étouffés. Donc, ce qu'on se demande et ce qu'on regarde dans le livre, c'est est-ce que là, on constate une révolte identique à celle qui a existé au 19e siècle ? Et on ne dit pas encore, parce que les travailleurs sont isolés, n'arrivent pas à se coaliser.
Il y a eu quelques mouvements collectifs de la part, par exemple, des livreurs des Deliveroo, mais ça n'a pas pris l'ampleur que ça pourrait
avoir. Exactement, parce que le travail est fragmenté, tâcheronisé.
Il me semble juste qu'il y a un autre, que en fait, le deuxième problème qui est parallèle à celui-là, c'est la question de la protection sociale du travail.
Absolument.
Parce qu'en fait, avec le salariat et parce que les salariés pouvaient s'organiser, ils ont réussi à conquérir des droits. Et ces droits sont aujourd'hui appelés non plus cotisations sociales mais charges, ce qui déjà influence la façon dont on les voit. Et du coup,
je vais apporter du dissensus dans un instant, ne vous inquiétez pas.
Du coup, le phénomène qui se passe, c'est que au nom on utilise l'idée d'émancipation, l'idée de travail indépendant pour en fait échapper à ces cotisations sociales et donc à cette protection qui était au moins la compensation du problème du salariat et du fait que c'était une charge.
Non, c'est-à-dire que ces travailleurs ne sont plus protégés ni par le droit du travail. Hein, le salariat, ça implique droit du travail, droit de la protection sociale. Le droit du travail, c'est quoi ? C'est un salaire minimum, un minimum de congés, une limitation de la durée du travail. C'est-à-dire que ces gens, ils peuvent travailler 90 heures pour rien. Et ils s'en rendent compte, évidemment, quand il y a un problème, quand il y a un accident, quand on les déconnecte. Et là, ils se disent « Ah, mais le salariat, c'était peut-être bien. » Donc, je crois qu'il faut qu'on réenchante le salariat.
Gilles Finkelstein.
Qu'il y ait des dérives, on le voit maintenant chaque jour, qu'il y ait une forme de désillusion par rapport à une forme d'utopie qu'il y a eu à la naissance de ces plateformes, sans aucun doute. C'est difficile de les quantifier, y compris parce que dans les travailleurs des plateformes, sans doute faut-il distinguer les entreprises dans lesquelles qui sont purement virtuelles, purement numériques et qui ont des salariés, type Facebook, et celles qui sont dans le virtuel, mais qui se traduisent après dans le monde réel, parce que on délivre un produit, et c'est pour celles-là d'abord que le problème se pose. La question que Moi, je me pose, c'est dans quelle mesure il faut faire entrer cette nouvelle économie dans notre modèle traditionnel, et dans une large mesure, évidemment, vous l'avez évoqué, sur la question du salaire minimum, de la protection sociale, ces questions-là se posent. Dans quelle mesure cela nous oblige à repenser notre propre modèle ? C'est vrai aussi bien sur la place du travail. C'est vrai, et beaucoup de jeunes qui travaillent n'ont pas le même rapport au travail. C'est vrai sur la place du salariat. Malgré tout, l'appétence pour le salariat n'est pas la même que pour notre génération dans la génération d'aujourd'hui. C'est vrai sur la forme des mobilisations. Donc, comment vous faites, enfin, est-ce qu'il faut et comment vous faites la part entre les deux?
Alors, Dominique Méda. Je pense qu'il y a eu depuis une vingtaine ou une trentaine d'années un discours qui a tendu à, comment dirais-je, à mépriser, à vilipender et à montrer tous les désavantages du salariat. C'est un discours très fort qui va de pair avec la diffusion du néolibéralisme. Il y aurait des règles, le salariat ça serait des règles et ça serait trop lourd, ça serait handicapant pour les entreprises. Et donc, il faudrait imaginer un modèle avec des entreprises en réseau. Finalement, dans tout ce discours, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a plus besoin de l'entreprise. Donc, il n'y a plus d'employeurs, il n'y a plus d'entreprises, il n'y a plus besoin de coordonner le travail. C'est la grande illusion de ce qu'on nous fait croire avec le numérique, hein. Et tout ça, finalement, qu'est-ce qui va organiser les arrangements ? C'est le marché. Donc, le marché comme stade ultime, en effet, de l'organisation du travail. Alors, on se rend compte que c'est absolument pas vrai. Ces entreprises Uber, là, elle nous fait croire qu'elle n'est pas une entreprise de transport. Elle nous fait croire qu'elle est juste une plateforme qui met des gens en relation.
Une interface entre celui qui a besoin de se déplacer et un chauffeur.
Exactement. Ce qui lui permettait, je parle au passé parce qu'il s'est passé des choses, ce qui lui permettait d'échapper aux législations nationales sur les transports. Et puis un jour l'Espagne, vous parlez de l'Espagne, un jour l'Espagne a porté la question devant la Cour de justice de l'Union européenne, qui a dit mais si vous êtes bien une entreprise de transport. Alors là, ça a quand même compliqué les choses. Et puis Uber continue à dire, mais nous, vous savez, on fait rien de plus que de mettre des gens en lien, donc on n'est absolument pas employeur.
Bah oui, c'est une entreprise qui ne possède pas de véhicule et qui n'a pas de salarié derrière le volant.
Aucun salarié, donc c'est ce que disait Natacha Polony tout à l'heure. C'est très facile.
Il y a ambiguïté.
On fait de la concurrence, c'est de la concurrence déloyale. On n'a plus besoin de payer les cotisations sociales.
On crée aussi de nouveaux services, Dominique Méda. Je vais me faire l'avocat de votre diable. Mieux vaut un boulot même précaire que pas de boulot du tout. Vous vous souvenez des discours d'Emmanuel Macron, mais pas seulement, parce qu'on peut citer des politiques dans d'autres pays que la France qui préféraient voir des jeunes s'engager dans ces formes de boulot-là, apprendre malgré tout à être un auto-entrepreneur plutôt que de tenir les murs.
Oui, je crois qu'on a atteint la limite de ce discours. Dans une de mes dernières chroniques dans Le Monde, je racontais plusieurs recherches, enquêtes, travaux faits soit aux États-Unis soit en Europe qui montrent le lien vraiment extrêmement fort, hein, entre la dégradation des conditions de travail, le chômage, les délocalisations, bref, la dégradation des conditions de travail et le vote pour les extrêmes. Le vote pour Trump, le vote pour l'extrême droite. Donc moi, je pense qu'il faut...
Quoi de commun ?
Ah bah, la perte de qualité de vie, de revenus. Par exemple, il y a une étude qui montre que l'augmentation de l'automatisation et des importations chinoises dans certains secteurs aux États-Unis a été de pair avec un vote extrême beaucoup plus affirmé. Mais j'ai pas répondu à Gilles quand il me demande si on pourrait pas à quoi aboutissent nos réflexions. Oui, il faut changer le salariat. C'est-à-dire que plus le salariat sera dégradé, moins les gens auront envie de le rejoindre et plus on aura en effet ces formes très dégradées de travail. Donc je pense qu'il faut que l'on réfléchisse sur ce qu'est devenu le salariat. Certains auteurs parlent de salariat sans subordination. En tout cas, ce qu'il faudrait faire, nous semble-t-il, c'est sinon réintégrer ces personnes dans le cœur du salariat, au moins on a les mécanismes en France possibles. Ça s'appelle le livre 7 du Code du travail. C'est des professions comme les journalistes professionnels, les VRP, les travailleurs à domicile, qui sont complètement protégés, bénéficient du code du travail, sans qu'il y ait un lien de subordination. Et juste un dernier truc, qu'a fait le gouvernement ? Au lieu de faire ça, il a proposé, dans la loi d'orientation des mobilités, des chartes sociales facultative, unilatérale, décidée par ces grandes entreprises. Et moi, je pense que ça, vraiment, c'est pas bien, c'est pas suffisant, et ça ne donne pas un coup d'arrêt nécessaire à cette dégradation du salariat, des conditions de travail de ces personnes.
Natacha Polony.
Les principes d'autorégulation par les grandes entreprises, en général, ça donne des résultats assez limités. Mais c'est surtout, il me semble, par exemple, quand on prend une entreprise comme Airbnb. Airbnb, là aussi, même discours, nous ne sommes pas une entreprise d'hôtellerie. Nous mettons en relation des gens.
Ne possède aucun hôtel.
Sauf qu'ils ont ouvert une conciergerie. Dans différentes villes, c'est-à-dire que des gens dont le métier est d'aller vérifier que tout se passe bien, donner les clés, etc. Comme un hôtel, on est bien d'accord. Donc évidemment qu'ils font du logement. Simplement, c'est en effet un principe de concurrence déloyale. Et derrière, il y a la question de... Bon, évidemment, le salariat doit être réenchanté. Mais Gilles disait à juste titre, il y a une modification du rapport au travail, de l'aspiration des jeunes en particulier à s'investir dans leur travail. Or, tout le problème, et j'en reviens à la question de l'autonomie. Quand vous remplacez des artisans hôteliers ou restaurateurs par une entreprise qui va en fait éviter de payer des cotisations sociales, mais qui leur fait concurrence, donc en n'ayant aucune charge et en s'appuyant sur le travail induit et caché du consommateur lui-même, parce que le génie de ces entreprises et de ces applications, c'est qu'en fait, le consommateur travaille aussi. Dans le cas d'Airbnb, c'est ça. C'est-à-dire que vous faites le ménage chez vous, vous nettoyez pour accueillir le client, en gros. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est une fausse autonomie. Donc, toute la question...
Enfin, on en fait quand même, en général, de moins en moins.
Non, mais comment ça, de moins en moins? Le modèle d'Airbnb repose
là-dessus. On clique sur son smartphone pour
là-dessus.
Éviter d'avoir à faire quelque chose. Très souvent.
Mais sauf que, justement, ces entreprises vous demandent de cliquer, plus de rentrer des données, plus... Donc, vous travaillez pour ces entreprises quand vous êtes consommateur. Ça veut dire que le cœur de la réflexion, c'est de savoir comment on fait pour inventer un modèle où les gens soient véritablement indépendants. Pour l'instant, ils ne le sont pas. On a juste les inconvénients du salariat, plus les inconvénients de l'indépendance.
Dominique Méda, est-ce que les politiques soutiennent les plateformes? Pour le dire très simplement, est-ce qu'aujourd'hui, il y a dans les politiques publiques une volonté d'accompagner ce mouvement? Alors, on ne peut plus l'appeler d'ubérisation, vous disiez que c'était déjà un terme obsolète et un terme du passé, mais ce capitalisme des plateformes, accompagner son développement, quoi qu'il arrive, pour essayer de trouver des formes d'emploi à des gens qui n'en ont pas.
Mais la réponse est oui. Il suffit de regarder les débats en commission sociale de l'Assemblée. Il y avait des avocats, notamment des chauffeurs, Deliveroo notamment, qui essayaient de montrer la situation très, très délicate dans laquelle étaient ces personnes. Mais la position du gouvernement, c'est en effet, au nom de l'emploi, de laisser se déployer ces organisations. Je reviens sur ce que vous disiez sur l'autonomie. C'est très important. Je pense que c'est vraiment le terme clé. On a laissé penser que ces personnes allaient trouver de l'autonomie dans leur travail. Et on a confondu, finalement, travail indépendant, autonomie et auto-entrepreneuriat. C'est-à-dire que aujourd'hui, on dit que ces personnes sont des travailleurs indépendants alors qu'elles n'en ont aucune des caractéristiques. Elles ne choisissent pas leur clientèle, elles ne fixent pas leur tarifs. Et c'est pour ça que, depuis assez longtemps, le juge américain et le juge anglo-saxon ont retoqué et ont requalifié les salariés, ces travailleurs en salariés, alors que le juge français a tardé, mais il y a eu deux coups de semonce extrêmement importants. Novembre 2018, la requalification des salariés de Take It Easy par la Cour de cassation, donc la plus haute instance, et janvier 2019, la requalification de salariés Uber, de travailleurs Uber en salariés. Et ça, c'est très, très, très important.
Gilles.
Oui, Dominique Méda souligne un point qui est très important, c'est que l'autonomie ne doit pas être synonyme du statut. Vous pouvez être salarié, et avoir beaucoup d'autonomie.
Absolument.
Vous pouvez être travailleur indépendant et n'avoir aucune autonomie.
Tout
donc il faut disjoindre les
tout
deux.
À fait.
Deuxièmement, le problème des travailleurs des plateformes n'est pas seulement une question de salaire ou une question de protection sociale, il y a aussi une question de sociabilité. C'est que ce sont des travailleurs qui sont chacun éclatés sans qu'il n'y ait plus aucun collectif de travail. Le travail, c'est pas seulement un travail, c'est aussi un lieu de c'est pas seulement une rémunération, c'est aussi un lieu de socialisation.
Oh, quand on parle des livreurs, ils discutent entre eux. En général, quand ils se retrouvent devant une pizzeria ou un resto de burgers, il y a des échanges, des saluts. C'est une forme de sociabilité.
C'est vrai, mais peut-être Gilles voulait-il parler des mobilisations.
Bien sûr.
Dans notre jargon, on parle des mobilisations improbables parce que ces gens sont complètement isolés, fragmentés, et donc c'est très rare Il y a des moments où ils ont réussi à se réunir, mais c'est très rare.
Alors, je reviens sur le dernier point. Vous dites à raison que le discours des entreprises sur le salariat a évolué, que la manière dont elles-mêmes se sont organisées en externalisant tout de plus fait. En plus, en sous-traitant, a aussi éclaté les collectifs de travail. Mais est-ce que le discours sur le salariat des travailleurs eux-mêmes n'a pas aussi fondamentalement évolué, notamment chez les jeunes? L'idée que le travail salarié, c'est trop lourd, trop contraignant, qu'on ne veut pas avoir qu'on veut avoir davantage d'autonomie dans sa propre organisation. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est aussi une réalité?
Dominique Méda.
Vous dites tous les deux un peu la même chose et vous avez parlé du rapport au travail, vous avez parlé des jeunes, comme si les jeunes étaient à la proue d'un mouvement, en effet, qui revendiquait.
C'est une vraie question.
Alors,
les millennials sont-ils des extraterrestres?
Alors, on a dit plein de choses sur ces gens. On a dit à un moment qu'ils aimaient plus le travail, qu'ils étaient matérialistes, qu'ils voulaient plus bosser, qu'il fallait... Aujourd'hui, on dit au compte... Voilà, non mais bien sûr. Qu'est-ce qu'on voit dans les enquêtes? Ils ont exactement les mêmes aspirations que les autres tranches d'âge, mais en beaucoup plus fort. Ils veulent gagner leur vie, ils veulent s'exprimer dans leur travail, ils veulent avoir un travail qui leur fait marcher le cerveau, donc on appelle ça le sens du travail. Donc on peut dire que leurs aspirations sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus élevées, je dirais. Mais ils rencontrent des conditions de travail assez dégradées, très dégradées même. La France a des conditions de travail très très médiocres. Et donc on a comme ça leurs attentes se fracassent en quelque sorte sur la réalité du travail.
Vous êtes vraiment sûr de ça, Dominique Méda? Parce qu'il y a les travaux que vous avez menés, il y a les enquêtes de ce collectif que vous avez coordonné. Il y a par exemple, au contraire, le sociologue Jean Viard qui, dans le magazine Le 1, avait dit justement des livreurs, les coursiers à vélo de Deliveroo, que la plupart d'entre eux, 40% d'entre eux étaient des étudiants, qu'ils travaillaient en moyenne 21 heures par semaine, 77% en moins de 30 ans, et seulement 33% d'entre eux sont là depuis plus d'un an. Et je vais terminer avec le déluge de chiffres, mais 80% de ces livreurs se disent satisfaits de ce travail, 72% satisfaits de leurs revenus.
Vous avez vu l'émission Cash Investigation sur les livreurs? Ils ont
sur pas... France 2, l'émission
voilà,
de Lise Lucet.
Ils ont pas l'air hyper satisfait. Non, mais je pense qu'il y a de tout. Je pense que, notamment au début, c'est vrai, au début, les livreurs à vélo, les jeunes, trouvaient ça assez enthousiasmant de prendre leur vélo et de parcourir la ville, etc. Mais les conditions sont devenues de plus en plus strictes. C'est-à-dire, on a mis des bonus pour certaines heures et on a accélérer les cadences et les obligations. Et ça, c'est vrai, mais je pense que c'est pas spécifique aux plateformes. C'est vrai de l'ensemble de ce qui se passe dans le travail aujourd'hui. Et je crois que ce sur quoi il faut s'interroger aussi, c'est pas seulement sur les plateformes, qui peut-être sont à la proue du mouvement, mais sur le mouvement général que nous observons, quand même, d'un mélange de dégradation des conditions de travail. Je disais tout à l'heure de retaylorisation,
de management
par le numérique. Et alors, pour le coup, de pression vraiment extrêmement forte sur l'autonomie. Ces gens, de même que les facteurs manipulés par le logiciel Géoroute, n'ont plus d'autonomie, on leur dit où ils doivent aller, de même les chauffeurs Uber. Donc, on a l'impression quand même d'une forme de déshumanisation et de dégradation du travail dont il faudrait vraiment, vraiment s'occuper. Parce que je vous disais, il y a des externalités dans tout ça. Hein. Le produit de tout ça, après, c'est des gens qui finissent par détester leur travail, avec aussi du stress et des... On avait fait en 2012 avec France Inter une grande enquête sur le travail où on voyait déjà monter cet énorme malaise au travail français quand même.
Natacha Polony.
Vous avez dit tout à l'heure que il y avait tout un discours qui consistait à faire croire qu'il n'y avait plus d'entreprise, que tout ça allait être en réseau. Est-ce que finalement la question ne doit pas être prise non pas du côté du travail, mais du côté de l'entreprise et de ses obligations, et en particulier de ses obligations fiscales? Qu'est-ce qui rend possible cette situation? Le fait qu'on peut, par cette organisation, échapper à l'impôt.
Absolument.
Parce que c'est ça le cœur du problème, c'est que toutes ces plateformes ont inventé un système qui leur permet de ne pas participer, de ne pas mettre au pot commun, et de tuer par là même, de concurrencer, de véritables indépendants qui, eux, payent plein pot. La destruction par Amazon de librairies indépendantes, des dernières librairies indépendantes qui restaient, la concurrence avec les derniers petits commerces qui peuvent rester et qui n'ont pas encore été tués par la grande distribution se joue là-dessus. Donc la question est de savoir comment, par la fiscalité peut-être et par l'organisation du droit, on oblige ces entreprises à payer réellement ce qu'elles doivent, et peut-être que là ça freinera un tout petit peu leurs appétits.
Dominique Alors, je disais tout à l'heure que le gouvernement laissait se déployer ces plateformes. C'est vrai, et en même temps, il fait des efforts. On le voit, nous on a rencontré les gens qui s'occupent de recouvrer les cotisations, le fisc, les contrôles, etc. Il est en train de se passer des choses. Il y a d'ailleurs, il me semble qu'il y a un basculement. Hein. Un basculement, c'est-à-dire on commence à se dire que là, c'est allé un petit peu trop loin. Et donc, les URSSAF, elles veulent récupérer c'est du travail illégal. Hein. Et donc, ce qu'on nous raconte, c'est quand même qu'il y a quand on fait des contrôles, il y a énormément de fraudes. C'est-à-dire, il y a des gens, bien sûr, qui depuis longtemps n'ont pas de licence pour exercer la profession de VTC, qui parfois n'ont pas leur permis. Bref, il y a une sorte de désordre là, sur lequel il faut évidemment revenir. Alors, vous l'avez dit, hein, en regardant ce qui se passe du côté de leur situation vis-à-vis des impôts, vis-à-vis des cotisations sociales, c'est très important. Sinon, en effet, on fait tout simplement de la concurrence déloyale, on détruit des professions réglementées. Hein. Alors un certain nombre d'économistes nous ont dit qu'il fallait cesser que les taxis accumulent des rentes, finalement.
C'était tout le discours de la campagne présidentielle, l'idée que les professions réglementées, c'était des rentes.
Exactement. Et ben, les professions réglementées, alors je ne vais pas faire l'apologie de le retour aux corporations, mais les professions réglementées...
C'est un peu ce que vous faites.
Un tout petit peu.
Ouais, c'est...
non, mais c'est vrai. Mais ça avait du bon.
Mais parce qu'on vous entend, Dominique Méda, si on conçoit qu'être livreur Deliveroo est un projet de vie. Là, en l'occurrence, c'est inadmissible. Mais si c'est un projet pour avoir des revenus exceptionnels, une période temporaire de sa vie, par exemple, quand on est étudiant ou quand on traverse une période entre deux emplois salariés, là, pour le coup, ça a des vertus.
Je complète peut-être la question d'Ali. Est-ce que, fondamentalement, le débat n'est pas aussi le débat sur la jeunesse, parce que beaucoup des travailleurs des plateformes sont des jeunes, et la société oscille entre méconnaissance et indifférence par rapport au sort de cette jeunesse. C'est vrai de la jeunesse en général, qui est un âge qui s'est étiré. C'est aujourd'hui à 30 ans que on a son premier contrat à durée indéterminée, et aussi à 30 ans que on a son premier enfant. Donc sur cette longue période de 16-18 jusqu'à 30 ans, semée d'un parcours d'embûches. Et c'est vrai de la jeunesse étudiante en particulier, pour revenir à l'actualité de la semaine, dont la précarité et les difficultés sont de plus en plus importantes, dans une indifférence assez générale, comme si c'était un rite qu'il fallait passer avant d'être dans une situation plus confortable.
Trois fois oui, je vois pas pourquoi.
Trois fois oui à ce que disait Gilles, mais pas à ce que je disais moi.
Absolument, donc je vais y revenir. Non mais il faut bien distinguer entre boulot d'appoint, en effet, hein, y compris les crowd workers, là, les gens qui sont derrière leur ordi.
Les crowd workers. Comme foule et travail.
Voilà. Boulot d'appoint, ou même côté un peu ludique de la chose, et puis ceux qui en font vraiment leur métier. Ok, on va déjà distinguer ça. Mais après, sur les étudiants, je vois pas pourquoi ce serait quand même sur les plus jeunes, et notamment sur les étudiants, que devraient peser les boulots les pires de notre société. Enfin, pourquoi? C'est un choix, mais je vois vraiment pas pourquoi.
Quand on compare... les pires boulots de notre société?
Pédaler comme un fou sous par tous les temps pour gagner peu de choses, et puis vous savez que ce qu'on raconte aussi, c'est que ces jeunes parfois ils abandonnent du coup leurs études. Mais je compare par exemple au Danemark, les jeunes ont accès à la fois des bourses, mais aussi des prêts, ou même des allocations, hein, des allocations pour vivre, quoi, ce qu'on n'a pas en France. Et on revient à la question du RSA. Là, on nous dit qu'on est en train de nous fabriquer un revenu universel d'activité qui va pas être ouvert aux jeunes, et donc ça veut dire qu'à nouveau, jusqu'à 25 ans, on a des jeunes qui sont obligés de se taper des boulots vraiment insupportables et risqués pour se payer leurs études. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Natacha.
Avec aussi cet effet pervers qui consiste à, en effet, utiliser des jeunes étudiants pour faire des boulots qui enrichissent des plateformes, qui détruisent des travaux indépendants qui pourraient ensuite offrir des débouchés à des jeunes gens, et des débouchés un peu plus intéressants. C'est-à-dire qu'on a là un cercle vicieux qui dérègle l'ensemble de la société. Et je pense que la question du statut des étudiants se pose dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'il y a aussi, justement parce que le RSA n'est pas versé en dessous de 25 ans, parce que rien n'est fait pour les aider, il y a un allongement artificiel de la durée des études pour essayer de garder un statut qui soit à peu près vivable et qui permette de ne pas couler. Donc tout ça marche sans dessus-dessous.
Moi, ce que je trouve passionnant dans ce travail que vous avez mené, Dominique Méda, c'est qu'en l'occurrence, vous nous amenez à nous interroger sur des gestes qui sont devenus quotidiens, extrêmement simples,
absolument,
que de plus en plus de personnes pratiquent, cliquer sur une application avec son pouce pour commander un service, des biens, que sais-je encore. Ça, c'est irréversible. Comment est-ce que vous allez amener les consommateurs, tous ceux qui en ont les moyens, et ils sont de plus en plus nombreux, à renoncer à ce type de choses qui leur sont accessibles aujourd'hui d'un clic, et notamment donc grâce à ces formes de travail qui ne sont pas du travail salarié?
Je pense qu'il faut faire augmenter les prix. Il y aura un effet, si vous rendez plus cher cette opération, alors moins de gens la feront. Et la manière d'augmenter les prix, c'est simple. Hein. Uber lui-même a dit, si nous utilisions des salariés, nous ne pourrions pas continuer. Donc, demandons à toutes ces entreprises de se comporter comme des employeurs normaux, c'est-à-dire de payer des cotisations sociales, de se mettre vraiment en règle, et après on verra ce qui se passera. Et en effet, peut-être aura-t-on une légère diminution de l'emploi, et encore, j'en suis pas certaine, parce qu'après tout, ils sont tout à fait capables de payer les personnes. Ou bien, on aura un nettoyage de ce secteur. Et on pourrait, moi, ce que je pense qu'il faut faire, c'est faire le tri entre les vrais indépendants. Il y a des vrais indépendants. Il faut les laisser. C'est très bien, c'est parfait. Mais les faux indépendants, il faut les réintégrer, soit dans le salariat, soit sous la protection du Code du travail.
Gilles, ça, il faut à l'évidence faire ce travail-là. Après, la question, c'est est-ce que on régule par le marché, c'est-à-dire on augmente le prix au risque que, évidemment, il y ait une dissociation en fonction des revenus, que ce soit seulement les plus riches qui soient susceptibles de se payer encore davantage qu'aujourd'hui ce type de service. Et puis, il y a une régulation, disons, par la réflexion politique, une prise de conscience d'une forme de despotisme des consommateurs que nous sommes, d'une relation presque de maître à esclave, de pouvoir consommer à n'importe quel prix, oui, à n'importe quel moment, oui, et sous n'importe quelle forme.
Qui va de pair avec un retour de la néo-domesticité, hein. C'est-à-dire, en effet, je décroche mon... Enfin, je clique...
On ne décroche plus son téléphone, ouais, on clique justement avec son pouce.
Voilà, je clique et quelqu'un va m'amener mon repas à domicile. Et c'est vrai que ça se multiplie.
Vous n'avez jamais commandé des sushis ou une pizza grâce à...
Jamais, Ali, et jamais été dans un Uber. Mais alors là, tout le monde va... je vais recevoir des...
Vous vivez au 19e siècle.
Mais les deux doivent être faits. C'est pas ce que Gilles appelle la régulation par le marché. C'est pas la régulation par le marché, c'est la régulation par le droit, au nom, j'allais dire, et, à titre provocateur, au nom de la concurrence libre et non faussée.
Mm-hmm.
Et
ah,
du véritable
libéralisme.
Nous sommes dans un système néolibéral, c'est-à-dire qui tue ce qu'il pouvait y avoir de positif dans le libéralisme. Donc rétablissons une véritable concurrence libre et non faussée, et ça passe.
Concurrence entre les entreprises ou concurrence entre les individus ?
Entre les entreprises, et ça passe par une information du citoyen, parce qu'il ne peut pas y avoir de système démocratique sans des citoyens autonomes et responsables, c'est-à-dire informés des conséquences de ce qu'ils font. Nous sommes en effet responsables de nos actes, et quand nous cliquons, nous choisissons un système politique et économique. Il suffit de rappeler ça de temps en temps.
C'était néolibéralisme qui me faisait penser à votre conversation précédente où vous disiez que les intellectuels s'étaient pas intéressés aux gilets jaunes. Pour juste rappeler, alors je ne sais pas si nous en sommes, mais que le 3 décembre, nous avions fait avec mes collègues Éric Heyer et Pascal Lokiek,
oui,
un article dans Libé pour dire ce mouvement des gilets jaunes, c'est le résultat des politiques néolibérales.
Pour le coup, qu'est-ce que vous conseillez à tous ceux qui ont un smartphone et qui utilisent ces applis? Puisque Natacha vient de dire qu'il y a, que c'est un geste politique au fond de commander une pizza.
Non, mais bien sûr, il y aurait le boycott, mais on sait bien que les opérations de boycott n'ont jamais énormément marché, ou elles marchent un temps et après. Non, moi je crois vraiment en effet au fait de remettre des règles et d'augmenter les prix non pas facticement, mais en réintégrant ces entreprises dans les institutions normales du fonctionnement économique de notre société. C'est-à-dire, je suis employeur, je paye des cotisations sociales.
Puisqu'on apprend de nouveaux mots avec vous, qu'est-ce que c'est le sweating system?
de transpiration et de système. Qu'est-ce que c'est?
Eh ben, c'était précisément le système de Tachereau au 19e siècle, avec, alors souvent il était...
Version américaine le, ou anglaise?
Anglaise, ouais, anglaise. Et on représentait souvent le tâcheron, celui qui faisait comme une grosse araignée qui suçait le sang des ouvriers qui suaient sous les coups de ce tâcheron. Et voilà pourquoi ça a été très vite supprimé.
Merci infiniment, Dominique Méda.
C'est
les
moi.
Nouveaux travailleurs des applis est publié aux presses universitaires de France, collection La vie des idées, et c'est co-dirigé avec Sarah Abdelnour. Natacha et Gilles, je vous donne rendez-vous samedi prochain à la réalisation du grand face-à-face cette semaine. Anne Lioro à la technique, Guillaume Roux. Merci à Antoine Liffaut qui a préparé l'émission. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain midi pour Questions politiques. We'll be right back.